c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme?
Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en.
Eh bien, moi, je plonge.
Et voilà, c'est reparti pour un tour.
Avant de devenir grand reporter, Martine Laroche-Joubert a été animatrice à la télévision dans les années 1970. Puis elle a été journaliste traitant des faits divers ou politiques, jusqu'à ce qu'elle réalise que quelque chose lui manquait. Ce quelque chose, c'était l'ailleurs, le lointain. C'est ainsi que Martine Laroche-Joubert est entrée au service étranger de France 2. Pendant près de 30 ans, elle a arpenté la planète et s'est spécialisée dans les zones de conflit. Elle a couvert le siège de Sarajevo, les deux guerres du Golfe ou encore les printemps arabes. Dans son récent ouvrage « Une femme au front » aux éditions Cherche Midi, elle livre tout ce qu'elle n'a jamais pu dire dans ses reportages. Les coulisses de ce métier difficile et engagé, la gestion du risque, les rencontres qui marquent à jamais, les erreurs et les regrets. Cet après-midi, Martine Laroche-Joubert vient partager avec nous son expérience de reporter de guerre. Elle va nous raconter cette envie d'action et cette passion de l'ailleurs qui l'ont toujours portée malgré le danger inhérent à son métier. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre chroniqueur Eric Birloez pour une nouvelle odyssée gustative. Aujourd'hui, il nous emmènera sur les routes du sucre. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac.
Toutes les journées se ressemblent depuis notre arrivée, à nos buts toutes ces 30 secondes. La terreur de sortir, de traverser une rue. Les jeux habituels des enfants qui vivent au milieu des combats. La ville assiégée se trouve des chefs de guerre. Le plus célèbre, Yuka, le bras et la jambe déchiquetés, mais à la tête de 5000 hommes, tous volontaires, prêts à mourir pour défendre Sarajevo. De leur QG, ils alignent leurs prises de guerre. Roquettes anti-chars, quelques mitrailleuses lourdes, Kalachnikov, un armement qui ne fait pas le poids face aux Serbes qui les bombardent, mais la rage de se battre est de leur côté.
Nous étions en 1992 à Sarajevo, alors que la guerre avait éclaté depuis un an en Yougoslavie. C'est un extrait d'un des reportages que vous avez réalisé sur le terrain pour France 2, Martine Laroche-Joubert. Vous avez couvert donc le siège de Sarajevo de l'intérieur. On entend hein, les balles fusent, les obus éclatent. De toutes les guerres que vous avez couvertes, celle de Bosnie vous a particulièrement marqué. Pour quelle raison ?
Elle m'a marqué parce que c'était une guerre au centre de l'Europe. Que c'était une guerre moyenâgeuse, un siège à l'ancienne. J'avais couvert un an avant la première guerre du Golfe avec les missiles qui arrivaient au-dessus des jardins de notre hôtel, qui tournaient à droite, à gauche, qui tapaient comme ça, qui bombardaient. Et je m'imaginais un peu bêtement que toutes les guerres seraient comme ça, quoi, ultra technologiques. Et là, subitement, je suis retombée dans une guerre vraiment médiévale. Sarajevo, c'était une ville cosmopolite, une ville donc européenne, une ville comme il y en a en France, avec des gens exactement comme vous et moi, et où il y avait eu les Jeux Olympiques en 1984. Et là, subitement, on revenait des siècles en arrière. Et il y avait une violence et une sauvagerie extrême. Mmh. Et cet extrait que vous avez entendu, c'était en juin 1992. J'étais avec Jean-Marie Le Maire. Nous étions la seule équipe de télévision étrangère sur place. C'était compliqué d'envoyer des images parce que l'émetteur avait été bombardé par les Serbes. Et donc, nous tournions, nous montions nos sujets avec un monteur bosniaque. Et les cassettes, on en faisait 10 copies et on les donnait à des gens qui allaient traverser les lignes serbes pour les faire parvenir à Split ou ailleurs et qu'elles parviennent enfin à Antenne 2. Donc c'était vraiment très 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 fort. Ouais. Les blessures des gens étaient atroces dans les hôpitaux et on s'imaginait naïvement avec Jean-Marie que la force de ces images allait pousser les chefs d'État européens à prendre la responsabilité.
C'est pour ça à ce moment-là que vous prenez ces risques. Un Sarajevo, c'est une cuvette. Les Serbes autour, le général Mladic l'avait dit, hein, de bombarder jusqu'à ce que la population devienne folle. Des snipers partout, des obus qui tombent. Vous êtes la seule journaliste encore sur place.
De télévision, oui.
Vous le faites, oui, la seule journaliste de télévision, pardon. Vous le faites pour alerter, parce qu'il faut être là à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous motive pour être là dans cet enfer?
Je le fais parce qu'il faut être là. Si on est parti avec Jean-Marie, c'est parce que justement aucune image n'arrivait de Sarajevo puisque l'émetteur avait été bombardé. Donc voilà, simplement, il faut y être. À un moment, il faut être là où ça se passe. Et là, c'est ce que nous voulions. Nous voulions être à l'endroit où ça se passe. Et si ça pouvait avoir une influence, et nous pensions que cela pouvait avoir une influence, ça serait bien. Ouais. Et finalement, ça a pris 3 ans et 8 mois.
Ouais. Mais peut-être que ça aurait pris encore plus de temps s'il n'y avait pas eu de témoignage, ou vous avez eu le sentiment d'être inutile, finalement?
Non. Oui, par moment, on peut avoir le sentiment d'être inutile, ou que ça ne sert pas à grand-chose. Mais jamais complètement inutile, d'abord parce que ça informe les gens qui regardent. Voilà, c'est déjà ça, que les gens ne peuvent plus dire après, je ne savais pas. Voilà.
Alors, vos reportages sont très factuels, hein, on l'entendait, vous mettez les événements à distance, sans faire de spectaculaire. Dans votre livre, Une femme au front, vous laissez la place à votre ressenti, vous faites preuve de plus de subjectivité. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes sur le terrain, dans ces zones de conflit particulièrement dangereuses, où la mort rôde?
C'est très difficile, parce que mes émotions, et Jeannet, elles ne peuvent pas prendre le dessus sur moi. Parce que si elles prennent le dessus, je n'arriverai plus à faire mon travail. Je vais dans des familles qui ont perdu des enfants, etc., si je pleure avec eux, il peut arriver que les larmes me montent aux yeux, mais si je pleure avec eux, si je me laisse submerger, ce n'est pas possible, je n'arriverai plus à prendre les bonnes décisions. Donc, mais en même temps, il faut que je laisse les émotions arriver, parce que je ne veux pas être un témoin froid. Il m'est arrivé, par exemple, au Zaïre, d'être il y avait une foule de réfugiés qui erraient dans la forêt. Les femmes mouraient de faim. Tout le monde mourait autour de nous, et à ce moment-là, c'était d'une violence extrême, et le GRI Roger Motte essayait de filmer ça au plus près, mais sans que la caméra ne soit une agression. Et à ce moment-là, il y avait un photographe à côté de moi, il est allé prendre un bébé qui était dans la file, et il l'a apporté lui-même à un poste de secours. Et là, je me suis dit, mais moi, je ne suis même pas capable de faire ça. Je n'ai pas pensé, moi, à aller chercher ce bébé et à l'amener à un infirmier. Vous voyez, là, j'étais trop blindée. C'était pas bien.
Ouais.
J'ai arrêté à un moment de faire ce genre de reportage pour me retrouver, pour me recentrer.
Ça, c'était en 1996, le génocide du Rwanda, voilà. Avec les Hutus, oui. qui s'étaient réfugiés dans la région des Grands Lacs.
Ouais.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est finalement ces reportages, ça vous apprend aussi à vous connaître vous-même. C'est aussi un travail introspectif. Là, vous vous dites, je ne suis plus qu'un témoin, mais je ne suis pas capable de m'émouvoir, d'agir, de tendre la main sur le terrain.
Exactement. Et si on peut tendre la main, il faut le faire. Voilà.
Ouais.
Et là, je ne pensais que au montage de mon sujet, à la diffusion, je pensais à témoigner. Et là, ça ne va pas.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier de reporter de guerre? Parce qu'au début, je le disais en introduction, vous n'avez pas commencé comme journaliste de terrain. Vous étiez sur les faits divers, vous étiez sur la politique.
Oui.
Et puis, il y a ce glissement qui s'opère.
Franchement, je le pensais pas du tout, hein, que j'arriverais sur les terrains de guerre. C'était pas du tout, je n'y pensais pas du tout pour moi. Et c'est petit à petit, dans les années 80, j'étais envoyée en Haïti. C'était très violent. Les tontons Macoutes cherchaient à empêcher la tenue des élections libres après le départ de Baby Doc, le fils de Duvalier. Et là, ils ont découpé des gens à la machette devant nous, dans les bureaux de vote. Et c'était particulièrement violent, mais dans cette urgence, je n'ai pas paniqué. J'ai eu peur, mais je n'ai pas paniqué. J'ai senti que j'arriverais à bien faire mon métier.
Je vous propose de vous écouter faire votre métier, l'intervention par téléphone dans le journal de France 2 depuis Haïti en 1987.
Alors ce matin, nous pensions que les élections allaient se dérouler à peu près correctement à Port-au-Prince, parce qu'on entendait, bien entendu, pendant la nuit, on a entendu des tirs, il y a eu des bureaux de vote qui ont été incendiés, de même qu'il y a des stations de radio qui ont été mitraillées à la grenade. Bon, mais quand nous sommes descendus, il y avait des bureaux de vote ouverts, et surtout, il y avait des files de gens absolument déterminés à voter. Ils disaient tous, vivants ou morts, nous voterons. Ce que nous avons constaté dès le départ, c'est que l'armée n'était pas dans les rues, c'était une présence tout à fait minimale, et que les files de gens devant les bureaux de vote n'étaient absolument pas protégées par qui que ce soit. Je suppose que maintenant, parce que nous sommes enfermés maintenant, nous ne pouvons plus sortir, les journalistes sont bloqués dans un hôtel, moi-même je suis aussi bloqués dans d'autres endroits. Donc, je ne sais pas comment sont les rues actuellement, mais je suppose qu'il n'y a plus personne dans les rues, que les gens maintenant ont vraiment peur et que la situation peut empirer.
Nous étions en 1987, Martine Laroche-Joubert. C'est votre premier vrai reportage sur une zone difficile. On l'entend, la voix est claire, les informations sont limpides. Et effectivement, vous gardez votre calme alors que la situation est franchement compliquée.
Oui, c'est ça. Donc là, je me suis dit, peut-être que sur ce genre de terrain, je suis légitime, je me sens légitime. J'étais pas forcément... très bonne dans les faits divers. C'est difficile aussi hein, de traiter des faits divers ou la politique intérieure. Alors là, vraiment, ça c'est un désastre. Il faut souvent avoir de telles relations avec les politiques français. C'est tellement difficile. Donc voilà, j'étais franchement pas la meilleure. Je suis pas très diplomate avec ça. Tandis que là, j'ai senti que j'allais y arriver. Peut-être pas mieux que les autres, mais que j'allais y arriver.
Depuis ce premier reportage en zone difficile en 1987, vous avez effectivement effectué régulièrement des reportages en zone de guerre et je vous confirme, vous y êtes arrivé. Nous allons voir comment vous travaillez sur le terrain, comment vous gérez le risque et ce que ces expériences vous ont apprises sur vous-même. Cet après-midi, Martine Laroche-Joubert partage avec nous son expérience de reporter de guerre.
Daniel Fievé sur France Inter.
Bangla noise on brick lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey Athens, lovers walk or camp road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down 9 to 5, and your weekends are spent loading up with the boys, with the bottle and bends. Only way to cope, cause this city don't stop for no one. Down Madeira I go, I've been fooled by the charm of the Kennington Road. While the backstreet drama don't get picked up by the sun. That's what makes London mine.
C'était London Mine, Joy Crooks sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Déterminé, prêt à mourir, mais inexpérimenté. Ces hommes partent au combat sur la route de la ville de Braga, sur la côte méditerranéenne. Leur but, empêcher les troupes de Kadhafi d'avancer sur Benghazi, à 250 km d'ici. Leurs armes, des RPG, des mitrailleuses 12-7, des grenades offensives, des cocktails Molotov, tout un arsenal dont certains apprennent tout juste à se servir. Ici, ils dégonflent les pneus de leur camionnette pour entrer dans le sable. Les combats se déroulent dans le désert. C'est une progression à découvert. Le feu est nourri. Pour ces hommes, une première expérience de combat intense.
Reportage en Libye en 2011 de notre invité Martine Laroche-Joubert. On vous entend arriver, là on est au début de la révolution libyenne. Comment on prépare un voyage pour partir dans un pays ou une région où le chaos est en train de s'installer, Martine Laroche-Joubert?
Ah là, je m'attendais pas du tout à partir là. C'était un soir, j'ai reçu un coup de téléphone d'une reporter du service, Dorothée Olérique. Il devait être 22h et elle m'a dit « Tu es prête à partir pour la Libye demain, matin ?» Ah, j'ai dit bien sûr. Donc pendant la nuit, voilà, je savais le GRI, j'ai appelé un monteur.
Donc le GRI, c'est celui qui prend les images, le journaliste,
voilà, exactement,
le reporter d'images.
Voilà, Jean-François Mounier, un monteur que j'adore, Ludovic Lavieille et tout. Et nous sommes partis le lendemain. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les frontières de la Libye étaient fermées.
Oui.
Avec Dorothée, on avait décidé que j'essaierais de passer par l'Égypte. Donc on est arrivé au Caire, on a pris une voiture avec un fixeur, Karim, que Dorothée m'avait recommandé.
Donc un fixeur, c'est un contact, voilà, sur place qui vous ouvre un peu la voie.
Exactement. Et nous sommes partis vers la frontière qui était donc fermée. On a roulé pendant 7-8 heures. Notre voiture est tombée en panne. Et une panne où Sama, le chauffeur, a farfouillé dans le moteur, mais enfin dans le capot, c'était une panne irréversible. Donc j'ai fait du stop sur la route. Des Libyens se sont arrêtés. On est monté dans leur voiture avec Jean-François, Ludo. On est arrivé à la frontière. Là, les Libyens nous ont laissés et la frontière était fermée. Et c'est à ce moment-là qu'il est important d'avoir un bon fixeur. Et Karim a commencé à discuter avec les douaniers. Il a discuté 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au bout de 3 heures, les douaniers nous ont ouvert la porte et on est passé. C'est comme ça qu'on était la première équipe à rentrer en Libye au début de la révolution.
Mais on n'a pas l'impression de se jeter dans la gueule du loup. Vous dites ça comme une victoire, on nous a laissé passer.
Oui.
Mais vous allez vers l'enfer, vous allez vers le chaos. On y va comme ça, le cœur léger?
Je le vois pas vraiment comme ça, je le vois pas non plus comme le cœur léger. Je vois que je vais être à l'endroit où ça se passe. Voilà, et c'est pour ça que j'ai été envoyée là-bas, pour être à l'endroit où ça se passe. Donc pour nous, on était vraiment heureux de passer cette frontière et nous allions voir l'inconnu. On savait pas du tout ce qui se passait. Donc voilà, on a encore pris une voiture, un taxi. On est arrivé à Tobrouk. Et là, la ville était en totale révolution. Les gens piétinaient le livre vert de Kadhafi, du guide. Ils nous disaient, c'est la première fois qu'enfin on peut s'exprimer dans les rues. Et comme ça, après, nous sommes allés à Benghazi, et là où l'atmosphère aussi était incroyable, dans un QG. J'ai rencontré une jeune femme qui était avocate, les cheveux libres sur ses épaules, et qui pour moi incarnait tout l'espoir de cette révolution. Plus tard, elle a été assassinée. Mais c'était cette révolution, il y avait un espoir énorme dans ces gens qui manifestaient, dans ces jeunes, dans ces familles, dans ces enfants aussi qui étaient là. Voilà, c'était un moment fort et nous étions vraiment heureux d'être là.
Comment on se prépare à ça, à arriver dans des endroits où effectivement c'est l'effervescence, on sent que le monde est en train de basculer dans la région où l'on se trouve. Vous faites des stages, vous entraînez avec l'armée.
Ah non,
c'est
non,
l'expérience qui fait la différence.
Oui, c'est peut-être l'expérience un peu, mais c'est surtout, je pense, ce qui compte, c'est la curiosité. Voilà, c'est la curiosité. Il faut être curieux de ce qui se passe dans le monde. Il faut avoir une bonne condition physique aussi. Il faut être capable de courir, s'il faut courir. Voilà, et il faut être disponible pour toutes les aventures. Il faut avoir sa valise toujours prête. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on peut partir comme ça, d'une minute à l'autre, et pas préparé du tout. Non, j'ai jamais fait de stage avec l'armée, ni quoi que ce soit, mais je fais beaucoup de sport.
Oui, ça aide, mais il faut quand même savoir, j'imagine, évaluer rapidement dans une situation d'où peut venir le danger, comment s'en protéger.
Exactement, et là c'est aussi le rôle du fixeur, parce que lui, il est souvent du terrain. Il connaît bien la situation sur place. Il y a l'entente avec le JRI, le caméraman, qui est très importante. Il faut qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde. Vous savez, on se pose toujours la question, on y va, on n'y va pas. Et puis si on y va, on va jusqu'où? Voilà, il m'est arrivé comme ça, une fois en Irak, il y avait une embuscade, c'était terrible. Les Américains étaient pris sous des feux. Et le caméraman, Patrick Desmully, s'est retourné et il m'a dit, on y va? Comme s'il m'invitait, je ne sais pas, à prendre un verre. Et on est allé dans l'enfer. Mais pourquoi on y est allé? Parce que j'avais confiance en lui, il avait confiance en moi. On se sent toujours un peu invulnérable, bien sûr. C'est une erreur. Mais bon, nous sentions que nous pouvions y aller. Il y a une question d'instinct aussi.
Alors, dans votre livre, vous vous interrogez quand même sur les raisons qui vous ont poussé à partir pour ces zones dangereuses. Ce qui vous porte, vous le dites, c'est la passion de l'ailleurs. Vous parlez du besoin de mettre l'Occident à distance. Et vous allez chercher très loin dans votre enfance ce besoin de se sentir vivre et de se sentir libre. Vous parlez de votre enfance au Maroc, à 4 ans.
Voilà, c'est ça. J'étais au Maroc quand j'avais 4 ans, où mon père avait été envoyé en mission. Et j'étais dans un tout petit village au pied de l'Atlas. Et on avait une toute petite maison, un immense jardin. Dans le jardin, il y avait des gazelles, il y avait des cigognes qui arrivaient pendant l'hiver en France. Il y avait le vent du Sahara, il y avait le glaoui de Marrakech, qui était une sorte de pacha là-bas, qui donnait des fêtes où il y avait des cavalcades de chevaux, de chameaux. Il y avait ce vent du désert, le sable, la poussière rouge. Et moi, j'ai été transportée à 4 ans. J'avais une sorte d'ivresse de cette liberté, de ce goût de l'aventure. Je crois que je l'ai attrapé là. Puis après, je l'ai perdu. Et je l'ai retrouvé exactement la même sensation dans mes premiers grands reportages ailleurs.
Oui. Alors, grand reportage ailleurs, d'accord, sauf que vous vous spécialisez dans les zones de conflit. Donc, cette liberté, cette envie d'aventure, elle, à tout ça s'ajoute les armes à feu, la guerre, la mort omniprésente. Ça, c'est une dimension supplémentaire.
Oui, c'est une dimension supplémentaire parce que c'est intense. J'aime les situations intenses. Et dans les guerres, dans les conflits, tout est une question de vie ou de mort. Toutes les conversations sont intenses. Ce qui m'intéresse, c'est pas les armes à feu, je m'en fiche. Je suis particulièrement nulle en plus en armement militaire. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens dans ce genre de situation. Comment ils s'adaptent à la guerre? Et ça, c'est absolument fascinant parce que vous découvrez des bourreaux. Et puis vous découvrez aussi des héros complètement anonymes. Il y a des gens qui font des choses pour les autres qui sont incroyables. Je me souviens que, par exemple, à Alep, en pleine guerre, il y avait des professeurs qui continuaient à venir faire l'école à des enfants. L'école, la classe en plein jour était éclairée à la bougie parce que les vitres avaient explosé sous les bombes, qu'il y avait des cartons qui obstruaient les ouvertures et en plus ces cartons empêchaient le froid d'entrer dans l'école. Et ces professeurs étaient des bénévoles. Ils continuaient à venir essayer d'apprendre aux enfants à lire et à compter. Je me souviens, il y avait un asile d'handicapés mentaux sur la ligne de front. Et c'était pareil, il y avait des bénévoles qui venaient pour laver ces gens, pour s'en occuper, pour leur donner à manger. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, de ce que ça implique? Et de faire ça dans l'anonymat le plus total, ils n'en tiraient aucune gloire. C'était juste parce qu'ils sentaient que c'était leur devoir de le faire. Et ça, vous découvrez comme ça des gens en reportage qui sont beaucoup plus grands que vous, qui ont des voilà, et c'est inspirant.
Je vous propose d'écouter une autre reporter de guerre que vous connaissez bien. D'ailleurs, vous l'avez déjà citée dans cette émission, Dorothée Olyrick. Elle était interrogée en 2015, elle aussi, sur les raisons qui l'avaient poussée à exercer ce métier.
J'ai l'impression d'être une personne très équilibrée, et je me dis qu'il vaut mieux t'équilibrer pour faire cette espèce de métier de barjot. Mais alors, pourquoi est-ce que je le fais? J'ai l'impression que ça remonte peut-être à quelque chose d'enfance, non pas très compliqué, mais un côté très puéril du t'es pas cap. Je sais pas, un psy trouverait peut-être d'autres raisons, mais il y a un côté se surpasser et quelque chose de logique pour moi. Voilà, si on peut faire ça, on peut faire ça. On peut toujours faire au-dessus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, on peut toujours aller plus loin. Alors, c'est valable aussi, parce que c'est pas logique d'aller dans un pays en guerre, c'est pas logique de s'endormir avec des bombardements au-dessus de la tête en se disant, pourvu qu'il n'y ait pas une bombe qui tombe sur mon lit cette nuit, parce que je m'en rendrai même pas compte et je serai morte. Donc, s'endormir en se disant que peut-être on se réveillera pas, c'est pas quelque chose de naturel. Mais, en dehors de ça, la passion qu'on a dans ces pays en guerre, dans notre travail, dans les rencontres, dans l'actualité, l'histoire qu'on court, est telle que ça escamote un petit peu cette peur et ce côté complètement illogique de qu'est-ce que je vais faire là-bas. Alors je vous cache pas que de temps en temps, je me demande qu'est-ce que je fous là. Mais qu'est-ce que je fous là ?
Dorothée Oliéric, reporter de guerre, interviewée dans l'émission Sur les docks de France Culture en 2015. Est-ce que vous vous reconnaissez, Martine Laroche-Joubert, dans les propos de Dorothée Oliéric et sur cette idée, on n'est pas Barjot, mais quand même, il y a quelque chose d'irrationnel et on se demande parfois, qu'est-ce qu'on est venu faire là?
Moi, je pense que je suis quand même un peu Barjot. Hein. mon côté Barjot, étrangement, disparaît. En temps de guerre, voyez. Moi, je n'existe pratiquement plus avec mes problèmes. Voilà, ça n'existe pas parce que je suis devant des situations qui sont plus grandes que moi, plus fortes que moi. Là où je me reconnais, c'est quand Dorothée dit qu'on a envie de se surpasser toujours. Là, je me reconnais là-dedans. On a envie de faire mieux, en effet. Ça c'est vraiment important. Ni Dorothée ni moi, je pense, en rôle des mécaniques, on n'est pas du tout comme ça. Mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les gens que l'on rencontre.
Ouais. Être une femme, ça change quelque chose dans la manière d'exercer ce métier difficile de reporter de guerre?
Ça ne change pas du tout, je pense, le regard. Je pense qu'il y a autant de regards qu'il y a de personnalités. Mais en revanche, quand les gens chez qui nous allons voient une femme, j'ai l'impression que ça les rassure, qu'ils se confient plus facilement quand il y a une femme dans une équipe. Je pense que j'ai fait des interviews de yézidis, des esclaves sexuels. J'ai fait des interviews beaucoup de femmes voilées. J'ai l'impression qu'elles se confient plus facilement quand il y a une femme dans une équipe. Et finalement, même les hommes les plus radicaux, les plus fondamentalistes, j'en ai rencontré beaucoup hein, dans des régions, dans les zones frontalières du Pakistan, en Afghanistan. Moi, en tant que femme, ils se méfient pas trop de moi. Et ils ne pensent pas que le risque peut venir de moi, donc je peux me faufiler dans ces interstices pour faire les reportages. Et puis à un moment, ils finissent toujours par me dire « Mais vous savez, les femmes sont de l'autre côté, elles aimeraient bien vous voir. » Est-ce que... Et du coup, moi, je traverse le miroir et je vais voir les femmes et je leur parle. Et ça, c'est intéressant. Donc je pense que être une femme, c'est vraiment un atout.
Ouais. Vous semblez très confiante, mais comment on gère l'inquiétude des proches quand on fait ce métier? Le fait d'avoir une famille, des enfants, hein, c'est votre cas, ça a jamais été un frein pour prendre ces risques, pour aller sur le terrain?
C'est toujours très culpabilisant laisser les enfants. Je peux pas dire, voilà, quand j'ai laissé mon fils pour la première fois, il avait 18 mois, je partais en Afghanistan. À ce moment-là, les portables n'existaient pas. Je savais que j'aurais un mal fou à lui téléphoner. Bon, j'avais un sentiment de culpabilité énorme. Mais en même temps, il fallait que j'y aille. Je pense que ça aurait été très difficile si mes enfants m'avaient retenue.
Ça n'a jamais été le cas.
Non. Même tout petit, ni mon fils ni ma fille ne m'ont retenu. Je crois que instinctivement, en tout cas quand ils étaient tout petits, ils ont compris que j'avais besoin d'aller là-bas, que c'était une passion. Et ils m'ont au contraire encouragée, les deux. Et voilà. Donc, du côté des enfants, j'ai pas eu de problème, de soucis. En plus, bon. Au final, ils ont réussi leurs études. Hein. C'est pas parce que je n'étais pas à l'heure des devoirs qu'ils ont tout raté.
Vous avez parfois regretté certains risques que vous avez pris sur le terrain ou de vous être mise en danger inutilement, justement pour vos proches, en pensant à eux?
Ça m'est arrivé une fois, la première guerre du Golfe. J'ai reçu l'ordre de rentrer à Paris à la veille de la guerre et avec... cet argument aussi des enfants, que j'étais folle, etc. Et En effet, je me suis dit, bon, en effet, j'ai des enfants, bon, ok, je vais obéir à l'ordre. Je suis arrivée à Amman et j'ai téléphoné à mes enfants, à ma fille, Alexia, et elle m'a dit, mais tu es où? Et je lui ai dit, bah, je suis à Amman. Et elle m'a répondu, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est à Bagdad que ça se passe. Oh! Je me suis dit, mon Dieu. Et donc, j'ai ramé comme c'est pas possible pour obtenir un visa et revenir en Irak pendant la guerre.
Vous allez continuer à nous raconter d'autres expériences et d'autres aspects de ce métier de reporter de guerre. Martine Laroche-Joubert est l'invitée du Temps d'un bivouac sur France Inter.
Africain, africain du nord au sud, et je suis africain, dedans comme dehors, et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain, un albinos afro. J'aime l'Afrique, africain, fantasmagorique, africain, de New York au Congo, africain, Dieu a la même peau. Je suis africain, du Fuji au Kilimanjaro.
Je suis africain, c'était Rachida sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Dans les rues dévastées de Raqqa, capitale de l'État islamique en Syrie, se blindent des Kurdes, zigzag. Au sol, des mines. Sur les toits, des snipers de Daesh. Ici, des bâtiments éventrés par les frappes de la coalition. Direction la ligne de front la plus proche du centre de Raqqa, il faut marcher vite.
Attention, on ne sait pas où sont les snipers.
Ce quartier, à l'ouest de la ville, vient d'être libéré par les combattants kurdes et arabes. À l'approche du centre-ville, les combattants prennent ces passages, ouverts de maison en maison, par les djihadistes.
Un nouvel extrait de l'un de vos reportages, plus récent hein, cette fois, Martine Laroche-Joubert. C'était à Raqqa en Syrie en 2017. Alors en couvrant ce conflit armé, ce désordre semé par Daesh sur le terrain, vous avez le sentiment à ce moment-là d'être une cible potentielle ?
Ah oui, on peut être absolument une cible. Déjà les journalistes, on peut être kidnappés. Donc voilà. Mais là, je suis avec les combattants kurdes, et ce qui m'a vraiment frappé pendant toute cette guerre, sont les combattantes kurdes. C'est incroyable parce que avant de les voir sur le terrain, je pensais quand on me disait qu'il y avait des femmes sur le front, que c'était bon, qu'il devait y en avoir, mais que c'était un peu bidon. Et puis finalement, j'ai beaucoup vécu parmi eux, parmi elles, et elles se battent vraiment sur la ligne de front. Et j'ai même l'impression qu'elles apportent quelque chose de plus. Parce que ces femmes, elles restent, et ça, elles ont pour ça mon admiration totale, incroyablement féminines. Elles ont des foulards colorés, elles ont une gaieté, une féminité qui est absolument incroyable. Et en même temps, cette féminité se traduit avec... Souvent par de la douceur. Elles ont une voix extrêmement douce. Je me rappelle en particulier d'une commandante à côté de qui je dormais. Elle se levait plusieurs fois la nuit pour aller réconforter les hommes sur la ligne de front. Et puis je l'entendais, elle revenait se coucher comme ça, une heure, deux heures. Et j'adorais entendre le timbre de sa voix. Alors elles ont souvent un discours assez formaté, hein, dû aux origines marxistes-léninistes du mouvement, mais la voix est si douce que je tombe chaque fois sous le charme. Mais elles sont aussi incroyablement courageuses. Ouais. Ce sont d'excellentes snipeuses. Elles ne reculent devant rien. Ouais. Et ça, quand je suis rentrée à Raqqa en juin 2017, j'étais avec des femmes et vraiment qui se battent. En plus, elles sont là avec des moyens dérisoires, des lance-roquettes hors d'âge, une Kalachnikov, voilà, et un sac Kitty sur l'autre épaule. Ouais,
c'est ce qui vous fascine, hein, quel que soit le lieu, le conflit que vous avez à couvrir. Souvent, c'est la façon dont les hommes ou les femmes s'adaptent à la situation, soit sur le terrain en allant combattre, soit en résistant dans la ville, en essayant au maximum de garder une vie normale, ou au contraire en se transcendant totalement. Il y a cette résilience, ces tempéraments humains qui vous fascinent, qui vous passionnent.
Oui, je me souviens aussi en Tchétchénie, à Grozny, j'habitais dans une famille et vraiment il y avait des bombardements intenses tout autour. Et nous étions chez une femme, elle mettait un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas un grain de poussière dans son appartement, qui était l'un des seuls à être encore en place. Et donc, elle faisait la poussière tous les jours, il n'y avait pas d'eau, il fallait la chercher très loin. Et là, voilà, elle mettait sa dignité, elle la mettait là-dedans. À Sarajevo, c'était pareil, il y avait des femmes aussi qui essayaient de faire des goûters pour les voisins, pour les enfants, avec un peu de farine, avec un reste de beurre. Elles faisaient de leur mieux. Des gens aussi qui essaient toujours de bien s'habiller, de se tenir. Ça, c'est très, très important. Et moi, ça me donne aussi une leçon. Quand je vais comme ça sur ces terrains de guerre, j'essaie moi aussi d'être habillée le plus correctement possible. Pour moi, d'abord, parce que du coup, ça me donne davantage d'assurance, mais aussi pour montrer à ces gens que je les respecte.
Comment on fait pour garder un certain équilibre quand on se frotte comme ça au fracas du monde régulièrement, aux horreurs de la guerre? On alterne, on s'autorise des reportages parfois ailleurs, en lieu de paix.
Ah oui, moi j'en ai fait beaucoup. J'ai toujours alterné. Dans le livre, par exemple, je parle d'un documentaire que j'ai fait sur Marilyn Monroe, un 52 minutes, parce que j'ai toujours aimé Marilyn Monroe, qui a toujours cherché le meilleur dans sa vie, les meilleurs films, les hommes, les plus célèbres, ou plus exactement les plus intelligents, Arthur Miller, Kennedy. Elle a toujours cherché ce qu'il y a de mieux, et puis comme la chèvre de Monsieur Seguin, finalement elle a été mangée, quoi. Et j'ai toujours été frappée par son destin, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un film sur elle. J'ai fait un film sur un festival de fous dans le désert du Nevada, dont je parle aussi, dans Burning Man. J'ai fait d'autres films sur les bals de la pureté dans le Dakota du Sud, où des jeunes filles de 11 ans promettent à leur père qu'elles resteront vierges jusqu'au mariage. Mmh. Je suis rentrée comme ça dans des sociétés très particulières, mais très intéressantes. Mmh.
Vous avez écrit ce livre, Martine Laroche-Joubert, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, à un moment de votre carrière où vous aviez envie de raconter un peu les coulisses de ce métier, et aussi peut-être à un moment où vous aviez envie de défendre votre métier. Vous pensez que c'est un métier qui est menacé aujourd'hui dans les rédactions?
Ah oui, oui. Il est absolument menacé. Il est absolument menacé parce que certains dans les rédactions, les comptables, trouvent évidemment que c'est toujours trop cher. Pourtant, nous avons fait beaucoup d'efforts de notre côté. Avant, on partait à 4, quand même, quand j'ai commencé le journalisme de télévision. Maintenant, on part à 2, souvent, quelquefois à 3, quand on a un monteur, mais c'est souvent un luxe. Bon, nous, on a fait un effort. Les reportages, on les envoie par Internet, donc c'est gratuit. Ce qui coûtait cher autrefois, c'était de les envoyer par satellite. C'est encore trop cher pour les comptables. Non, il faut pas exagérer. Mmh. Bon, donc, ils sont menacés par les comptables. Souvent aussi, il y a des gens sur le terrain qui filment les événements avec leur portable, donc les rédactions, elles reçoivent plein d'images. Le problème, ça ne me gêne pas du tout que les gens filment, le problème c'est que ils filment quoi finalement? Est-ce que les événements se produisent juste à un endroit, ou est-ce que général, il n'y a pas de mise en perspective? Plus il y a d'images faites par des amateurs, en réalité, plus il faut envoyer de journalistes pour vérifier ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a de plus en plus de fausses informations. Donc c'est un métier qui est menacé par une surabondance d'images, et donc il faut les journalistes avec leur expertise.
Merci Martine Laroche-Joubert. Je rappelle que votre livre s'intitule « Une femme au front ». Il est paru aux éditions du Cherche Midi. Restez avec nous. Dans un instant, Éric Birloise nous emmène sur les routes du sucre.
À Beau Rivage auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beau Rivage nous échouerons, avant qu'on voit tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avant révoqué la douceur, sur des chemins de roses enfouies, bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à Beau Rivage, endroit parfait qui nous attend, auront perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage, auront connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beau Rivage nous échouerons, nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'un des marécages, sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à Beau Rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà lande et marécage, avons perdu beaucoup de temps, avons écumé toutes les terres, vendangé toutes les illusions, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beau Rivage thank you.
Dominica, c'était Beau Rivage sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka.
Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais cette île est un jardin de richesse vraiment incroyable.
Qu'est-ce que c'est ?
Une sorte de tubercule, je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivé.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit cette carotte ?
Oh, c'est surprenant.
Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Daniel.
Chaque semaine, vous nous racontez le long voyage qu'ont fait certains aliments pour arriver sur nos tables et dans nos recettes de cuisine. Aujourd'hui, il est question d'un aliment qui a totalement changé de statut.
Et oui, c'était au départ une denrée de très grand luxe à usage exclusivement médical. Et c'est devenu de nos jours un ingrédient quotidien, banal, excessivement bon marché, mais dont la consommation n'est plus encouragé du tout, mais au contraire pointé du doigt par le corps médical. Je veux parler du sucre.
Alors depuis quand les hommes mangent-ils du sucre ?
Les hommes n'ont pas toujours connu le sucre, mais depuis la préhistoire, ils ont recherché avec avidité le goût du sucre. Dès notre naissance, nous sommes spontanément attirés par la saveur sucrée. Pourquoi ? Parce qu'elle est le signe de la présence dans un aliment d'une énergie immédiatement utilisable par le cerveau. À l'origine, les principales sources de cette saveur sucrée, c'était les fruits et le miel sauvage.
Et le sucre lui-même, alors quand apparaît-il ?
Avec la canne à sucre, cette plante, elle poussait spontanément à l'état sauvage et endémique en Nouvelle-Guinée. Les habitants de cette grande île avaient l'habitude de mâchonner des tiges de canne à sucre et puis ils ont décidé de la cultiver, mais tout en continuant à la mâchonner. En fait, c'est en Inde, aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ, que sont mises au point les premières techniques de fabrication du sucre. On broie les cannes pour en extraire le jus, que l'on fait ensuite chauffer. En refroidissant, ce jus cristallise naturellement. Au produit final qu'ils obtiennent, les Indiens donnent le nom de sarkara, qui en sanskrit signifie grain de sable, et d'où dérive notre mot sucre.
Et les Français, et plus généralement les Européens, quand commencent-ils à se régaler de ces grains de sable sucrés ?
Mais en fait, beaucoup plus tard, au 7e siècle, les Arabes devenus musulmans découvrent en Perse des plantations de canne à sucre. Et à partir de ce moment, le sucre va se diffuser dans le sillage des conquêtes de l'islam. Au XIe siècle, la canne est cultivée, entre autres régions, dans le sud de l'Espagne, en Sicile, à Chypre, en Crète. Mais les surfaces cultivées restent limitées et le sucre produit n'est pas exporté. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin du XIe siècle encore, l'Europe ne consomme toujours pas de sucre.
Mais les choses vont bien changer. Hein,
oui. Avec les croisades. En Terre Sainte, les chrétiens découvrent les plantations de canne et du sucre commence à être exporté vers l'Europe, mais alors à un prix exorbitant. Et c'est pourquoi on réserve son usage aux seuls malades et convalescents. On pense qu'une denrée aussi rare et précieuse ne peut avoir que des effets bénéfiques sur la santé.
Et le sucre est donc d'abord considéré comme un médicament alors ?
Oui, absolument. Et puis très progressivement, il commence à être consommé par les bien portants, mais uniquement par les ultra-riches. À la fin du Moyen-Âge, les élites sociales se mettent à grignoter des épices de chambre. Ce sont des petites billes de sucre qui renferment en leur cœur un fragment de gingembre, cannelle, clou de girofle ou noix de muscade. C'est censé favoriser la digestion et la bonne santé. Et on mange du sucre du début à la fin des repas, y compris en assaisonnement de la viande et du poisson. Et à la Renaissance, on peut même parler d'un véritable boom sucrier.
Ah, c'est une vraie folie du sucre qui apparaît alors.
Oui, mais à partir du XVIIe siècle, le sucré salé n'est plus à la mode et les mets sucrés n'apparaissent plus qu'à la fin du repas. Le sucre employé, c'est toujours exclusivement du sucre de canne. Mais en 1806, grande révolution, Napoléon Ier instaure le blocus continental. Le but, c'est d'asphyxier économiquement les Anglais en les empêchant de vendre leurs marchandises aux autres pays européens. Conséquence, le sucre en provenance des Antilles anglaises ne peut plus entrer dans les ports français. Il faut donc pallier la pénurie de sucre et Napoléon encourage alors la recherche de procédés d'extraction du sucre à partir de la betterave, laquelle, ça tombe bien, est cultivée en France et le défi est relevé avec succès en 1812 par Benjamin de Le Serre.
Et le sucre aujourd'hui ?
Aujourd'hui, 80% du sucre produit dans le monde est extrait de la canne, 20% de la betterave. La France, c'est le premier producteur mondial de sucre de betterave. En 2018, elle était aussi le premier producteur européen, tout type de sucre confondu, et le 9e producteur mondial. Le leader, c'est le Brésil devant l'Inde.
Et pour finir, alors vous avez choisi une recette sucrée, j'imagine ?
Oui, mais alors quitte à encourir les foudres de la faculté, je propose cette recette qui figure dans un livre de cuisine catalan publié en 1520, recette dont le titre est « Pâté de sucre fin ». Pour 6 personnes, Mélangez des amandes en poudre, 300 g, du sucre, 400 g, sucre de canne, s'il vous plaît, pas d'anachronisme, 3 cuillères à soupe d'eau de rose, pas mal de gingembre, à peu près 4 cuillères à soupe. Prenez une pâte à tarte, découpez-y des ronds, recouvrez-les de la farce amandes et sucre, repliez pour former des demi-lunes en soudant les bords avec un peu d'eau, faites frire dans de l'huile et puis badigeonnez ces pâtés de sucre fin avec du miel, saupoudrez de cannelle et de sucre glace au cas où cela manquerait un peu de sucre.
Oui, c'est ça. Il faut vraiment aimer manger sucré. Merci Éric Birloise. On va mettre évidemment la recette sur la page de l'émission, à consommer avec modération tout ce sucre. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale, publié aux éditions Ouest France.
Au revoir Daniel, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Aloha, au Wiedersehen, sayonara. Et bien d'autres choses encore.
Au revoir, monsieur.
Demain à 16h, nous irons en mer Méditerranée. Nous nous intéresserons aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes de la Grande Bleue. Et à 17h, Jamy Gourmaud, le Jamy de C'est pas sorcier, nous emmènera dans un tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Leïla Kadour Boudadi pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Leïla.
Bonjour, et on va en parler de la Méditerranée finalement avec Sylvain Tesson,
c'est
le
votre
prince
invité.
Des chats qui grimpe et tutoie les gargouilles. Il sera avec nous pour parler de Notre-Dame, bien sûr, mais aussi de sa nouvelle série documentaire sur Arte dans le sillage d'Ulysse.
Vous aussi, vous nous emmenez en voyage.
Ouais, j'aime bien l'idée.
Eh ben, on vous suit.